Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Quel compromis êtes-vous prêt à faire pour la personne que vous aimez? Quel sacrifice? Vous êtes déjà posé ces questions? Lou, elle, c'est simple, elle est prête à tout. Tout, même être la maîtresse d'un homme qui n'est pourtant pas marié. Tout du moment qu'on ne lui enlève pas celui qu'elle aime.
Comme il sent que je suis à fond, clairement, il m'explique très vite qu'il ne faut surtout pas que je m'enflamme, qu'il ne faut surtout pas que je fasse des plans sur la comète, parce que certes, on a passé un moment dingue, hors du temps, très très particulier, et pour lui et pour moi. Voilà, lui, ça faisait donc 2 ans qu'il était séparé de son épouse à ce moment-là. En 2 ans, il a fait la fête, il a vécu sa vie de célibataire à proprement parler. Donc il a rencontré certainement, et je le sais, beaucoup de femmes, et c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, ce qu'on a vécu ce week-end-là, il ne l'avait jamais vécu auparavant, et ça a été très particulier pour lui et très intense. Mais par contre, voilà, tout de suite, il m'a bien mis les points sur les i en me disant que voilà, il fallait certainement pas que j'espère quoi que ce soit d'autre. Donc il fallait vite que je retourne dans ma petite vie avec mon compagnon, parce que de toute façon, il n'avait rien à m'offrir. Je m'en rends pas compte que je rentre dans une cour qui est beaucoup plus grande que ce que j'imagine, que est beaucoup 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 trop grande pour moi. Et du coup, je me dis ouais, bon. C'est ce qu'on verra, en fait. Parce que moi, je reviens à Avignon et je ne suis plus du tout la même. Et là, je me rends compte que je ne veux plus vivre que ce que j'ai vécu ce week-end-là, c'est-à-dire un truc incroyable comme ça, avec des émotions aussi fortes. Chose que malheureusement, je n'avais jamais vécue avec mon compagnon. Donc, j'ai envie que de ça. Ça devient une obsession à part entière. Je veux qu'être avec lui, donc je me dis... Je vais tout faire pour l'avoir. Je vais le faire basculer, c'est obligatoire. Là, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on a eu un coup de foudre dingue l'un pour l'autre. Je ne peux pas laisser passer ça, je ne peux pas laisser passer cet homme. Je crois qu'à ce moment-là, je me rends compte que c'est l'homme de ma vie. Et je sais que si ce n'est pas lui, ce sera toujours un second choix, qui que ce soit d'autre. Et je me dis que ce n'est pas possible. Donc, je me mets en tête que je vais quitter mon compagnon. Parce que mon couple ne va plus bien du tout. J'ai plus du tout envie, encore moins, voilà, d'avoir un enfant, c'est plus un sujet pour moi. Je reprends ma pilule en cachette parce que j'ai pas encore le courage de lui en parler. Je lui dis que à mon compagnon que je fais une grosse déprime, ça va pas du tout. Donc à ce moment-là, je ne m'alimente plus parce que je suis tellement dans un tourbillon. Compliqué, et dans ma tête ça va pas, je sais plus où j'en suis, donc j'arrive plus à manger, je fais que travailler pour essayer de me vider la tête. Je pense que voilà, après ça, ça dure à peu près 2 mois où je suis plus moi-même, et je perds à peu près 10 kilos à ce moment-là, en 2 mois. Donc mon compagnon voit que ça va pas du tout, effectivement, et il me pose la question quand même à un moment donné, parce qu'il voit que je suis complètement ailleurs et que je suis tout le temps sur mon téléphone, et il me demande si j'ai quelqu'un d'autre. Et au lieu de sauter sur l'occasion, je n'ai pas le courage et je lui dis « Mais non, pas du tout, c'est juste que je ne sais plus où j'en suis. » Il est extrêmement triste. Donc j'ai d'un côté un homme qui est fou de moi, qui est très très mal, et d'un autre côté un homme dont je suis folle, et lui qui me dit que non, il ne peut rien m'offrir et qu'il faut qu'on s'oublie, qu'on arrête, que ce n'est pas bien. Mais qui en même temps, lui aussi, au fond de lui, il est quand même bien accro, et il continue de m'écrire, il continue de m'appeler. Et le problème, c'est que tous mes amis, ma famille, tout le monde adore mon compagnon et je ne peux en parler à personne. Je me sens très très seule parce que j'ai l'impression de mentir à tout le monde. Et c'est ce que je fais en fait, je mens à tout le monde à ce moment. Jusqu'au jour où, on est début janvier, on a passé des fêtes absolument atroces. Je suis presque prête à dire à mon compagnon que je le quitte, mais je ne suis pas du tout prête à lui dire que c'est pour quelqu'un d'autre parce que je sais que je vais le détruire. Et malheureusement, comme il bosse chez Orange, en fait, entre autres, il arrive à entrer, je ne sais pas comment, dans mon téléphone et il découvre tout. Et un jour, je rentre chez moi, il est tôt, il rentre jamais très tôt, et ce jour-là, il est là. Il est assis sur le canapé et il me demande de m'asseoir. Il me dit « je sais tout ». Alors, bêtement, premier réflexe, je nie tout. Et je lui dis « mais de quoi tu parles ? Je sais que t'as quelqu'un et je sais qui c'est ». Et là, je lui dis « mais comment ça ?» et tout, et je sens que tout s'effondre, c'est terrible. Et en même temps, je me sens délivrée. Et je lui dis, mais pas du tout, mais tout ça. Et il me dit, mais je sais que c'est lui, mais comment tu peux, mais avec ce mec, non mais sans déconner, mais c'est un vieux, tu l'as vu, non mais il a 20 ans de plus que toi, mais c'est ridicule, mais ouvre les yeux, on a tout, on a notre vie, on a notre maison, on va avoir un enfant, c'est ce qu'on veut, ressaisis-toi. Il pleure, il est très mal, et en fait, il essaye d'être en colère, mais il n'y arrive pas parce qu'il est très très malheureux. Et là, en fait, j'avoue, au bout d'un moment, j'ai dit oui, c'est vrai, je suis désolée, je sais pas ce qui m'a pris, mais en même temps, c'est plus fort que moi, je sais pas. C'est très dur ce moment-là, très très dur. Et il me dit, mais de toute façon, j'ai envoyé des gars que je connais à Bordeaux, ils vont aller le choper, oui, parce que là, on est vendredi soir, donc Simon a éteint son téléphone puisque c'est Shabbat, donc je peux même pas l'appeler, je pourrais rien faire, je le sais, jusqu'au lendemain soir. Il me dit, j'ai envoyé des gars, ils vont aller lui casser la figure à la sortie de la synagogue. À ce moment-là, quand il me dit ça, au lieu d'être complètement effondrée, de perdre toute ma vie avec mon compagnon, je pense qu'à Simon. Et je me dis, oh là là, mon Dieu, comment il va le prendre quand il va se faire casser la figure et derrière, il ne voudra plus jamais me voir. Et en fait, j'avais juste peur d'une chose, c'était que Simon ne veuille plus jamais me voir. Je pensais qu'à ça, alors qu'en fait, j'étais juste en train de détruire la vie de quelqu'un d'autre. Donc, c'était pas évident du tout. Donc clairement, mon compagnon me fout à la porte, littéralement. C'est-à-dire qu'il me dit, tu prends 2-3 affaires et tu pars. J'ai une chance, c'est que je me suis fait quelques amis quand même à Avignon et j'appelle tout de suite une copine qui m'héberge les bras ouverts. Et heureusement, le lendemain, je travaille et là, je découvre que mon compagnon a appelé ma manager, donc la nouvelle manager du salon, pour lui raconter que, clairement, je me tapais le patron. C'était ses mots. Donc, j'ai été... elles m'ont prise pour la nana qui cherchait le pouvoir, qui voulait être au-dessus de tout le monde, qui se tapait le patron pour faire bien. Et j'étais vraiment la traînée de service à ce moment-là. Et ça a été terrible. Je me dis, je rentre à Bordeaux. Je veux rentrer à Bordeaux tout de suite. Je quitte tout, je plaque tout. Donc, j'arrive à joindre Simon, le samedi soir très tard, quand il a enfin rallumé son téléphone. Je lui explique tout. Et là, il est sans dessus dessous. Il est vraiment très, 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 très mal. Et il me dit, oh là là, OK, bon, je vais gérer le truc. Bon. Après, c'est quelqu'un qui ne s'énerve pas. C'est quelqu'un de très tempéré, d'assez calme. Donc là, il me dit, bon, écoute, t'inquiète pas, ça va aller, je vais gérer. Mais voilà, mais il me dit pas, viens à Bordeaux et on va vivre ensemble et ça va être génial, hein, pas du tout. Et la seule chose qu'il me demande, c'est, par contre, pour l'instant, j'ai besoin de toi au salon, je viens de le racheter, là, c'est toi tu pars qui est mon élément moteur. Si toi tu pars, tout se casse la gueule, même la boîte que je viens de racheter, en plus de tout le reste, j'ai besoin que tu restes. Et là j'ai dit, mais enfin, c'est pas possible, là les filles elles me font la misère, c'est l'enfer, comment je vais faire. Et, mais bon, il ne me laisse pas trop le choix. Et il me dit, écoute, je te promets, après, je te mute à Bordeaux tout de suite. Je te prends dans un de mes salons. Ça va bien se passer. T'inquiète pas. Je reste 4 mois. C'est l'enfer. Je vis à droite, à gauche, chez des copines. Et au bout d'un moment, je décide de retourner chez moi chercher des affaires. Et en fait, mon compagnon a changé la serrure. Et je ne peux pas rentrer. Et quand je l'appelle, il me dit que de toute façon, je ne remettrai jamais les pieds dans cette maison, alors qu'il y a toutes mes affaires. Mais qu'il a pris ce qu'il pensait être raisonnable à me donner et qu'il a tout mis dans des cartons qui se trouvent au garage et j'ai le droit d'aller dans le garage. Et là, j'arrive et il y a 5 cartons, alors que ben, il y a une maison entière qui m'appartient à moitié, mais j'ai 5 cartons. Et dans ces cartons, il y a mes vêtements, mes chaussures, quelques assiettes, enfin 2-3 trucs de déco qui sont vraiment à moi, ou des trucs de famille, des trucs auxquels je tiens, et c'est tout. Donc je pars avec mes petits cartons sous le bras, et j'ai une cliente qui accepte de me louer un appartement, alors si on peut, non, plutôt une pièce. Et du coup, j'achète un matelas gonflable, des draps, et je me mets dans cette pièce. Parce que clairement, c'est encore plus petit qu'un studio. Hein. Il y a une toute petite salle de bain et une pièce. Donc, je vis 3 mois dans cette pièce. Donc, je travaille dans une ambiance terrible. Et le soir, je rentre dans cette pièce. Et Simon est très peu présent. C'est-à-dire que ben, ça lui a causé énormément de soucis avec son associé, au point qu'ils se sont séparés. Ils ont vendu tout ce qu'ils avaient en commun. Ils ont liquidé les sociétés. Enfin, ça a vraiment, vraiment mis le bazar. Donc lui, il a des millions de choses à gérer et à ce moment-là, il dit qu'il a fait une énorme connerie et qu'il ne peut pas en plus être là pour moi, quoi. Donc je me sens très, très seule. Il ne peut pas venir me voir. Donc moi, je suis à Avignon, lui, il est à Bordeaux. Voilà. Mais on s'appelle quand même, on s'écrit régulièrement. Mais il y a des moments où je n'ai pas de nouvelles pendant plusieurs jours, plusieurs semaines parce qu'il se remet en question et qu'il se dit qu'il faut qu'il arrête, que c'est n'importe quoi, qu'il en a déjà trop fait. Sauf que moi, j'attends que ça, quoi. Je ne vis, je n'espère que ça. Au bout de 4 mois, je pars enfin d'Avignon. J'arrive enfin à Bordeaux et je vais travailler donc dans un des salons de Simon parce qu'entre-temps, lui, il avait remonté des salons de son côté. On a dû se voir une fois ou deux. J'avais dû faire des allers-retours pour aller le voir une fois ou deux pendant les 4 mois. C'était des superbes moments à chaque fois, donc qui me redonnaient un peu de courage pour y retourner. Et là, on se retrouve vraiment dans la même ville, à Bordeaux. Je travaille pour lui et je me dis, cette fois, ça va être cool. Ça va aller. Et puis, en fait, ça ne le fait pas tant que ça parce que, ben, parce que c'est très dur. Je travaille pour lui. Je dois lui rendre des comptes en tant que salarié. En même temps, on a notre idylle à côté. Et ça se gère très mal parce que lui, il est pris entre ben, sa vie de boulot, sa vie religieuse, sa vie de père. Moi, qui lui demande beaucoup et beaucoup trop, il est complètement perdu. Et en fait, clairement, c'est, dans sa tête, c'est sauf qu'il peut, sauf qu'il peut, sauf qu'il peut. Il veut absolument m'oublier, passer à autre chose. Voilà. Donc, il y a des moments où pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, je n'ai pas de nouvelles. On se croise au boulot, il me regarde à peine. Enfin, c'est l'enfer. Et donc, je me dis que c'est plus possible. Je dois l'oublier, moi aussi, parce que ça devient invivable. Et pour ça, il faut que je change de travail. Donc, comme avant, j'habitais à Bordeaux donc, de base, j'ai pas mal de gens dans le milieu de la coiffure que je connaissais là-bas, dont des anciens collègues qui avaient monté un salon haut de gamme dans un appartement. Et celui qui était donc le patron de cet endroit m'avait toujours dit que si je revenais sur Bordeaux, il aurait toujours une place pour moi. Donc je suis allée frapper à sa porte. Et là, il me dit ok, c'est bon, je te prends. Donc là, c'était vraiment une chance incroyable parce que professionnellement parlant, c'était exactement ce qu'il me fallait. Je trouve une colocation. Parce que ben, j'ai rien à part mes vêtements. Je n'ai pas un compte en banque suffisamment rempli pour pouvoir acheter ben, tout ce dont on a besoin quand on prend un appartement seul, l'électroménager et tout ça. Donc, il me faut une colocation avec quelqu'un qui a tout. Et je trouve une coloc qui est absolument géniale. Et on se dit que voilà, on va vivre ensemble le temps de se refaire et l'une et l'autre pour pouvoir reprendre notre envol chacune de notre côté. Et donc moi, je suis en pleine reconstruction. Cette personne est très, très bénéfique pour moi parce que c'est quelqu'un de génial, qui est célibataire, qui a mon âge, avec qui on fait plein de choses, et ça m'éclate. Je lui parle beaucoup de mon histoire avec Simon, elle me conseille beaucoup, elle m'écoute beaucoup, ne me juge jamais, donc ça m'aide. Lui, donc, il a divorcé il y a 2 ans, il ne veut pas se remettre en couple, c'est pas du tout son leitmotiv. Il a donné, c'est bon, il a envie voilà, d'être à fond dans son boulot. Et être en couple, c'est pas du tout son idée, et encore moins avec une non-juive. C'est pas écrit comme ça pour lui, c'est pas possible. À Bordeaux, il y a une grande communauté juive, mais malgré tout, Bordeaux est un village, tout le monde se connaît. Dans la communauté, les gens parlent beaucoup. Et lui, c'est quelqu'un, c'est une personnalité dans la communauté qui a une place quand même importante. Il est très impliqué, tout le monde le connaît, et il ne veut pas, ça ne peut pas se savoir qu'il est avec moi, ou alors vraiment comme ça. Voilà, il peut flirter avec une non-juive, passer du bon temps, mais certainement pas être dans une relation officielle. Il est en contradiction avec lui-même, parce que ben, cet amour qui commence à naître assez profondément en lui, pour moi, n'est pas du tout compatible avec sa vie religieuse, avec sa vie de père, père d'enfant, donc très très religieux aussi, très pratiquant. Les enfants, il leur a inculqué tout l'inverse de ce qu'il est en train de faire. Donc, il se doit de montrer l'exemple. Il n'a plus son papa, mais il a sa maman qui est très très proche de lui, sa famille, ils sont très famille. Annoncer ça à sa famille, ce serait un déshonneur total. C'est vraiment quelque chose de très très fort. Voilà, moi je le pousse dans un sens. Et toute la communauté, tout le reste, toute sa famille le pousse dans l'autre sens à l'intérieur de lui, parce que pour l'instant, personne ne le sait. Et moi, je n'ai pas envie d'y croire. Moi, je suis une grande romantique, et quand je vois, parce que malgré tout, on se voit quand même très régulièrement, quand je vois ce qui se passe entre nous, cette énergie qui est dingue, cette alchimie qui est dingue, je me dis que l'amour est plus fort que tout et qu'on ne peut pas être séparés, ce n'est pas possible. Quand on est ensemble, qu'on passe pas mal de temps, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et parfois, j'arrive à lui faire dire que peut-être ça peut être possible. J'essaie de lui montrer une autre vision et je lui dis « Ta religion est magnifique, tes traditions sont très belles. » Et je le pense vraiment, je suis très admirative. Mais j'essaie de lui dire que peut-être que c'est une petite entorse et que, ben, à côté de ça, qu'est-ce que c'est, enfin, il a été marié, il a eu ses enfants, il a fait son devoir de perpétuer la religion. Donc peut-être que maintenant, il arrive vers 50 ans, peut-être qu'il peut penser un peu à lui. Et j'arrive presque à lui faire entendre ces idées-là. Et il me dit que oui, peut-être. Alors oui, peut-être on peut partir en week-end. Alors oui, peut-être on peut se faire 5 jours de vacances. Alors, et puis petit à petit, je l'amène à faire des mini-projets à très court terme, mais voilà, un week-end par-ci, des petites vacances par-là. Et puis, voilà, le temps passe, et puis il vient chez moi. Alors moi, je ne vais pas chez lui. Donc, à sa famille, il ne parle absolument pas de moi. Ses enfants ne savent pas du tout où est leur père quand ils découchent. Ils sont grands, hein, ces enfants. Ils ont, à ce moment-là, entre 13 et 20 ans. Donc, voilà, il n'y a pas de problème pour qu'il... Il ne rend pas de compte parce que ce n'est pas quelqu'un qui parle. Ce n'est pas quelqu'un qui parle de lui. Ce n'est pas quelqu'un qui rend des comptes. C'est un taiseux, hein, il faut vraiment se rappeler de ça. Donc, il l'est avec tout le monde. Donc, personne n'ose trop lui poser de questions. Voilà, leur père est célibataire, il sort. Donc, voilà, personne ne pose de questions. Sauf que, ben, on passe beaucoup de temps ensemble. Et on va au restaurant, et on va au cinéma, et on sort, et on va dans des bars, et on est à droite, à gauche, on voyage beaucoup, donc on est souvent à l'aéroport, on est souvent à la gare, et on croise beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup de monde. Donc en fait, le bouche à oreille fait qu'au bout d'un moment, bah, les mois passent, les années commencent un peu à passer, et les gens bah, savent tous qu'on est ensemble, en fait, de manière officieuse. Personne n'ose lui poser la question, donc lui, il n'en entend jamais parler, et lui n'en parle jamais. Mais moi, les gens m'en parlent. Et puis, j'avoue que j'en parle aussi parce que, quelque part, je me dis que peut-être que si j'en parle, peut-être que si de plus en plus de monde est au courant, il assumera peut-être de plus en plus parce que bah, ça deviendra quelque chose de normal et de banal et que ça arrivera aux oreilles de ses enfants et que peut-être un jour, il va les confronter et que ça va l'aider. Bon. Donc, on fait plein de choses ensemble, plein de choses. Mais il y a des moments où quand on revient d'un voyage, par exemple, on revient de Bali, on est en 2014, on a passé 15 jours, on a pris des habitudes, on a vécu comme un petit couple, Là, ça lui fait peur. Là, ça lui fait peur et il part. On rentre et il me quitte. Du coup, après cette dispute, eh ben, il coupe court. Alors, j'ai plus de nouvelles pendant plusieurs jours. Il me met dans des situations dingues. Ma famille, mes amis, ils sont complètement dévastés de me voir tout le temps, un jour oui, un jour non. Mon humeur, elle est au gré de lui, tout le temps de ses humeurs à lui. Et ma santé en prend un sacré coup parce que je sens quand même que je déprime de plus en plus. À chaque fois qu'on se sépare, entre guillemets, parce que bah, voilà, parfois on a des séparations de plusieurs jours, parfois de plusieurs semaines, c'est même arrivé de plusieurs mois, je sombre de plus en plus dans le mal-être. Mais on finit toujours par se retrouver, par se remettre parce qu'on n'y arrive pas. Ni l'un ni l'autre, on arrive à se séparer, c'est l'enfer. Donc il revient toujours me chercher et j'y retourne toujours. Et les années passent et puis ben, un jour, j'ai 30 ans, 31, 32. Et puis ben, malgré tout, ben, je suis une femme et quand on s'est rencontrés, je voulais avoir un enfant. Donc lui, cette idée est dans sa tête. Ça, c'est un gros sujet. Parce qu'il me dit qu'il ne pourra jamais me donner d'enfant, parce que pour lui, comme la religion passe par la mère, avoir un enfant non-juif, c'est impossible. Et moi, à ce moment-là, je me dis, peut-être qu'il faut que je me convertisse. Parce que si je me convertis, je serai donc juive, donc ça pourra aller. Sauf que je me renseigne beaucoup, j'étudie beaucoup, donc au fur et à mesure des années, j'ai appris énormément sur cette religion. Je suis vraiment très très calée, mais je sais aussi que se convertir, c'est le parcours du combattant, que c'est vraiment très 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 dur et qu'il faudrait que je bouleverse ma vie entière, ma vie professionnelle, ma vie de famille, parce que voilà, c'est des concessions énormes. Toute la phase de transition, c'est des années et des années sont voués à la religion, c'est trop compliqué. Et en plus, il ne faut surtout pas que ça se sache qu'on fait ça par amour. Donc, ça veut dire qu'on ne pourrait même pas se voir avec Simon à ce moment-là. Ça me semble impossible. Donc, je décide de ne pas le faire. Et puis en plus, je ne crois pas en Dieu. Et j'ai quand même tellement, tellement de respect pour cette religion que je ne peux pas me convertir à une religion que je respecte alors que je ne crois pas en Dieu. Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est un sujet que je mets de côté. Et je me dis, alors cette fois... Faut que je lui dise que je veux pas d'enfant. De toute façon, je suis tellement folle de lui que par amour, je décide de ne pas avoir d'enfant. Je lui dis, je ne veux pas d'enfant. Mais lui, il veut pas l'entendre, ça. Il me dit, non, je sais que tu mens. Je sais qu'au plus profond de toi, t'en veux un. Et je pourrais pas t'en donner, je pourrais pas. Et je tiens bon, je tiens tête et je lui dis, mais moi, ce que je veux, c'est être avec toi. Si être avec toi, c'est ne pas avoir d'enfant, je veux être officielle, être ta femme, parce que malgré tout, en fait, là... Je suis dans l'ombre, je suis la maîtresse d'un homme non marié. Et ça, c'est pas possible pour moi. C'est invivable. Donc, à chaque fois qu'on se sépare, c'est pour ça. Je lui demande de m'officialiser. Je lui demande de parler à sa maman. Je lui demande de parler à ses enfants. Je lui demande de crier sur les toits qu'on est ensemble. Sauf que pour lui, c'est terrible. C'est quelque chose qu'il n'arrive pas à faire. En plus, c'est quelqu'un qui est très mauvais en communication, qui a vraiment du mal à parler de ses sentiments, à parler de ce qu'il ressent. Alors, aller dire à ses enfants, les prendre entre quatre yeux et leur dire ça, ça lui semble impossible. Et pourtant, quand on est ensemble, on passe des moments tellement fabuleux, on est tellement amoureux, tellement fusionnels. Enfin, on est fous amoureux l'un de l'autre. Donc, il me regarde et il me dit, je vais le faire parce que t'as raison, je peux pas vivre sans toi, j'y arriverai pas. Donc, il essaye et puis il échoue à chaque fois. Et moi, à chaque fois, je deviens de plus en plus folle et je lui fais des crises de nerfs pas possibles. À chaque séparation, je lui pose un ultimatum et je lui dis « Ok, tu veux revenir, très bien. Par contre, tu fais ça. Par contre, tu fais ça. Par contre, j'y vais par étapes. » Mais à chaque fois, petit à petit, il y arrive. Il y arrive, mais aussi avec beaucoup de promesses. Et moi, j'ai envie d'y croire. Et on repart en voyage et on est à chaque fois encore plus soudés l'un à l'autre. Mais c'est du coup de plus en plus douloureux parce que moi, les années passent. Je fais le deuil d'une maternité, je fais des concessions énormes, je passe mon temps à attendre cet homme. Je passe mon temps à attendre la fin de Shabbat pour qu'il puisse rallumer son téléphone. Je passe mon temps à attendre qu'il parle à sa mère. Je passe mon temps à attendre qu'il ait terminé de travailler, qu'il ait terminé ci, qu'il ait... Voilà, parce que je peux même pas aller à son bureau, puisqu'il a un de ses fils qui travaille dans son bureau. Donc, je ne peux pas juste aller boire un café avec l'homme que j'aime après manger. Je peux rien faire. Et donc, en fait, je passe mon temps à l'attendre chez moi. On part beaucoup en week-end. On annule aussi beaucoup, beaucoup de week-ends, parce qu'à la dernière minute, il me dit « Non, mais en fait, on va pas partir, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. » Il me rend dingue. Donc, je suis vraiment mal. jusqu'à un moment où on se sépare vraiment. On est en 2017. Je lui dis que si cette fois il veut revenir dans ma vie, parce qu'encore une fois il vient gratter à ma porte, je lui dis qu'il faut qu'il me présente à ses enfants. Mais là, on arrive à un stade où lui-même souffre énormément de nos séparations. Il se rend bien compte de ce qui me fait vivre. Et il se dit que là, il faut qu'il fasse quelque chose et que je mérite que tout cet amour que je lui donne, tout cet amour qu'on partage, mérite d'être mis au grand jour et que ses enfants vont comprendre parce qu'il est tellement proche d'eux qu'ils vont forcément comprendre. Il me dit d'accord, là, cet été, on va partir en vacances en Israël. On va à Tel Aviv. Donc moi, je rêve d'aller là-bas parce qu'il m'en a tellement parlé et c'est tellement une culture qui m'attire que je suis trop heureuse. Il me dit, mes quatre enfants passent leurs vacances là-bas, donc on va aller les rejoindre et tu seras là et ils n'auront plus le choix et voilà, et vous allez faire connaissance et ils vont forcément t'adorer parce que t'es quelqu'un de génial et t'es solaire et t'es... Et voilà, il m'adore, donc forcément, lui, il voit ça très très bien, ça va bien se passer. Mais en fait, quand on est arrivé là-bas, il envoie un message à ses enfants et il leur dit que, qu'il est arrivé, qu'il est à tel hôtel, mais qu'il est avec moi. Et que demain c'est Shabbat et qu'il aimerait qu'on le passe tous ensemble et qu'on se rencontre. Et en fait, ses enfants n'ont jamais répondu à son message et n'ont plus jamais répondu au téléphone pendant les 15 jours de vacances. Donc à ce moment-là, les enfants savent très bien que j'existe parce que toute la ville sait qu'on est ensemble officieusement. C'était totalement tabou. Ils n'ont jamais prononcé mon prénom ensemble. Et jusqu'à ces vacances où on arrive et c'est la catastrophe. Parce que je lui avais dit, je te conseille de prévenir tes enfants en amont, de commencer à les préparer, qu'on arrive. Et en fait, comme il a encore manqué de courage à ce moment-là, il n'a pas réussi à leur dire. Donc il s'est dit, surfait accompli, ils n'auront pas le choix, on sera tous dans la même ville en vacances, et ça va bien se passer. Et en fait, on n'a aucune nouvelle des enfants pendant les 15 jours. Donc Simon, il est très mal, mais malgré tout, on passe 15 jours merveilleux, comme on sait très très bien le faire ensemble. Et il arrive à cacher son mal-être. Et ça se passe plutôt bien. Tellement bien que je suis très confiante. C'est-à-dire que je me dis, ok, ces enfants, finalement, ça se passe pas du tout comme prévu, mais je le sens assez fort, ça va aller, on va rentrer et on va reprendre notre vie et il va les choper, il va leur parler et ça va aller. Et puis quand on est revenu en septembre, c'était à nouveau les fêtes juives, le Rosh Hashanah et tout ça. Ces enfants ne sont pas allés passer les fêtes avec leur père. Alors que depuis qu'ils sont nés, ils passent les fêtes avec leur père, ils sont très très proches, et là non. Donc ça a été très très dur pour Simon. Comme un de ses fils travaille avec lui, il a réussi à le voir au travail, et il lui a dit, mais écoute, je comprends pas là, vous me faites quoi là tous les quatre? Vous allez me faire vivre ça combien de temps encore? Et en fait, son fils l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit, mais t'as pas compris, tant que tu seras avec elle, tu ne nous reverras plus jamais. Parce que ça n'est pas toi, ça n'est pas comme ça que tu nous as élevés. Et en fait, quelque part, ils avaient raison. Il faut se mettre à la place des enfants. Ils ont été éduqués d'une manière où ce n'est pas possible. Ils idolâtrent leur père et là, quelque part, leur père leur fait honte. Les enfants, ils sont beaucoup dans la communauté, tous leurs copains sont juifs. De savoir que leur père, qui est pour eux leur modèle, fait ce genre de choses, à leurs yeux, c'est quelque chose de pas possible. Être avec une femme de 20 ans de moins non-juive et vouloir l'officialiser, pour eux, ça n'a pas de sens. Ils se sentent complètement trahis, je pense, par leur père. Et la seule façon qu'ils ont trouvé pour le faire changer de cap, c'était de le mettre face à un ultimatum à leur tour. Simon est totalement perdu. Il sait vraiment pas quoi faire et il m'appelle. Et il pleure beaucoup et il m'explique ce qui se passe. À ce moment-là, il me dit, je ne sais pas quoi faire, mais à ce moment-là, je sais que c'est fini. Je sais que là, ça fait 7 ans que je me bats pour rien, que cette fois, c'est vraiment terminé. Alors pas pour rien, parce qu'on a passé 7 ans magnifiques malgré tous les orages. Ça a été vraiment 7 ans de passion intense. Mais là, je sais qu'à ce moment-là, je l'ai perdu. Parce que on a beau s'aimer très très fort, il ne m'aimera jamais autant qu'il aime ses 4 enfants et c'est tout à fait normal. Et le Simon que j'aime, avec toutes ses valeurs, c'est une si belle personne que évidemment qu'il choisit ses enfants. Et je le comprends. Et là, je lui dis, ne me dis pas que tu ne sais pas quoi faire parce que tu sais quoi faire. Et voilà, et on va se séparer. Et tu vas retourner auprès de tes enfants parce que moi, être avec un homme malheureux, je t'aime tellement que je ne peux pas te faire ça. Donc, tu retournes avec tes enfants. Tu leur dis que c'est terminé. J'ai envoyé un message à son fils en lui disant qu'ils avaient gagné, que cette fois, je leur laissais leur père, que je lui demandais juste de bien prendre soin de lui parce qu'il en aurait besoin, parce qu'il allait être très malheureux et que moi, j'allais m'effacer. Je n'ai jamais eu de réponse à ce message. Je suis effondrée, je suis dévastée, le sol s'ouvre sous mes pieds et je sais que je perds tout. C'est-à-dire que mon essence, ma raison de vivre n'est plus. Je sais que là, c'est terminé, il ne faut plus qu'on se voit, plus qu'on s'appelle et que de toute façon, il n'y a plus d'issue. On a tout essayé, on s'est battu pendant 7 ans. Je me suis beaucoup battue pour lui faire entendre raison sur plein de choses et j'y suis arrivée. C'est vraiment le pire moment de notre histoire. Je sens que je le perds. Je décide de le bloquer de partout sur mon téléphone parce que je le connais et je me dis que malgré tout, je suis plus forte que lui à ce petit jeu-là qui n'est pas un jeu, mais en tout cas, je suis plus forte que lui, donc je le bloque de partout. Je ne veux plus recevoir ses messages. Je ne veux plus recevoir ses appels. C'est impossible. Tous les réseaux sociaux, voilà, je l'enlève de tout. Parce que si on ne fait pas cette cassure nette, on ne s'en sortira pas. On a déjà essayé 1000 fois avant, pendant nos multiples séparations. On ne peut pas faire autrement que comme ça. Donc, je le bloque. C'est l'enfer. Je suis dans un état... je vis comme un robot. Je n'ai plus rien. Plus que des émotions de tristesse intense, de vide. J'ai l'impression qu'on m'a coupé les deux bras, coupé les deux jambes. J'ai plus de raison d'être bien. Donc je vis avec mes amis, avec ma famille, dans mon boulot, mais je suis en fait complètement absente. Donc pendant un an, je suis affreusement mal. Évidemment, dans la ville, tout me rappelle. Voilà, tous les restos... tous les salons qu'il a, dans lesquels je passe tout le temps, tout est un déchirement à chaque fois. Tous les endroits où on a l'habitude d'aller, de se promener, toutes les voitures qui sont les mêmes que la sienne, tout est absolument terrible. Je pense que toutes les personnes qui ont vécu des séparations douloureuses voient exactement de quoi je parle, mais c'est ça. Je ne suis qu'une douleur, voilà. Mais je me dis que je n'ai pas le choix et qu'il va falloir que je rebondisse. À ce moment-là, j'ai 35 ans. J'ai encore du temps pour refaire ma vie, pour passer à autre chose, mais ça me semble en fait complètement impossible. Mais j'essaie de m'attacher à cet espoir-là. Je me mets à fond dans le yoga, dans la méditation, dans plein de choses qui peuvent me faire du bien, qui peuvent essayer de m'apaiser. Ça marche. Au bout d'un an, je sens que petit à petit, ça va un peu mieux. Mais je pense quand même à lui tout le temps. J'ai jamais une journée où je ne pense pas à lui, évidemment. J'arrive pas à bloquer les mails. Donc en fait, depuis un an, Simon m'écrit toutes les semaines. Toutes les semaines, j'ai un mail. Alors des petits mails, des petits mots. Des « je suis très mal », des « tu me manques », des « dis-moi si ça va », « je veux juste savoir si tu vas bien »,« j'en suis malade »,« j'arrive plus à vivre »,« j'arrive plus à respirer ». Enfin, j'ai le droit à tout. Et moi, je dois être forte. Donc je ne réponds à rien. Et c'est très, 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 très dur. Une nouvelle année commence et puis je commence à m'ouvrir un peu plus, à accepter de sortir un peu plus, beaucoup trop peut-être. Je rencontre du monde, je rencontre des hommes évidemment, d'autres hommes. Je me force complètement et je suis dans mon histoire de second choix. Cette histoire, depuis le début, depuis que j'ai rencontré Simon, je sais que si c'est pas lui, ce sera toujours un second choix. Et je suis complètement là-dedans. C'est-à-dire que... j'ai envie d'y croire. J'ai qu'une envie à ce moment-là, c'est d'appeler Simon et de lui dire « Je t'en supplie, reviens, reviens, parce que là, ça va pas du tout. C'est toi que je veux. » Mais je fais pas. Je me raisonne, je retravaille, je refais du yoga. Voilà. Mais c'est dur. Alors, 2 ans passent. Et puis, dans ces 2 ans, à la fin, il y a eu le confinement. Le confinement où j'ai passé les 2 mois toute seule chez moi. Et là, ça m'a permis de beaucoup travailler sur moi-même. J'ai eu 36 ans. Et là, je me dis, waouh, je l'ai rencontré, j'avais 27 ans. Aujourd'hui, j'en ai 36. Et quand je refais tout le chemin, je me dis que cette vie, elle est quand même folle avec lui, que j'ai adoré ça. Et qu'aujourd'hui, je m'ennuie. clairement quand il n'est pas là et que c'est l'enfer. Et que ben, je fais un peu la belle, je dis que ça va parce que j'ai des messages par mail toutes les semaines. Mais que si jamais un jour il a un jour de retard, je ne fais pas trop la maline en fait et qu'il me manque terriblement. Je me rends compte aussi que ben, j'adorais cette vie et que finalement, si, imaginons, il revenait, qui me dit, tiens, allez, c'est reparti, je te fais un enfant, et si, et ça. Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Ben, je crois pas, en fait. Parce que aujourd'hui, j'ai l'habitude de vivre ma petite vie, je sors beaucoup, j'ai plein de potes, je profite de ma famille. Est-ce que j'ai envie d'avoir un enfant? Je suis 4 fois marraine, j'ai plein de gamins autour de moi, ça me suffit, je crois, quand je vois mes amis. Ils ont leurs enfants, je les adore, je les pouponne. Ça me permet de donner un peu un côté maternel à ma vie qui me suffit amplement. Et je me rends compte, eh ben, il me manque rien. Je suis hyper bien. Et je me dis, mais en fait, là, jusqu'à présent, je voulais absolument qu'il m'officialise. Je voulais absolument qu'on vive ensemble. En fait, je voulais une vie normale. Je voulais la vie que j'avais prévue avec mon compagnon d'avant, avec lui, avec Simon. Et en fait, ben, je lui demandais l'impossible. Parce que ben, c'était pas nous, c'était pas lui, c'était pas possible comme ça entre nous. Et du coup, là, j'ai 36 ans, je me dis que je veux pas forcément d'enfant, en fait. Que ce qui me manque, c'est Simon et la vie qu'on avait. Et que, ben, aujourd'hui, la vie que j'ai, je l'adore. Donc, depuis, hein, j'ai quand même quitté ma coloc depuis longtemps. J'ai acheté un appartement il y a 5 ans. J'y suis super bien. J'adore sortir. J'adore. Je travaille encore énormément. Je passe beaucoup de temps en famille. Un jour, il m'envoie un mail encore, comme d'habitude, et il me dit. J'en peux plus, ta personne me manque, j'y arrive pas, j'y arrive plus du tout. Je t'en supplie, accepte juste de boire un café avec moi. Et là, ben, ce jour-là, je lui réponds pour la première fois et je lui dis, ok, allons boire un café. Et là, rien qu'à travers son mail de réponse, je sens l'explosion de joie qu'enfin, après 2 ans où il ne m'a jamais lâché, je réponds et je lui dis ok. Je réponds aussi « ok » parce que je sais qu'à ce moment-là, je suis assez forte. J'ai assez travaillé sur moi pour ne pas m'effondrer en le voyant, pour ne pas faire de ce moment-là un calvaire, mais plutôt un super moment où je retrouve mon tout. Mais j'y vais pour un café et je lui promets rien du tout. On se retrouve et je me demande ce que ça va me faire. Et voilà. Il vient chez moi parce que on est encore un peu confinés, on n'a pas trop le droit de sortir, les bars sont pas ouverts, donc il vient chez moi. On est un peu mal à l'aise et en même temps, c'est comme si on s'était jamais quitté. C'est comme si c'est exactement le même, je suis exactement la même et au bout de 3 minutes, notre complicité revient à 100% et on rigole parce qu'on rigole beaucoup ensemble. Donc voilà, donc ces retrouvailles incroyables ont eu lieu il y a maintenant 6 mois. Et ce café était génial. Et puis une semaine après, on a décidé de se voir pour un repas chez moi. Et puis une autre fois, et puis une autre fois. Et puis on s'était dit non, mais c'est juste comme ça. C'est juste pour se revoir, pour passer du bon temps. Mais en fait, voilà, c'est reparti comme jamais. Et depuis, on est parti en week-end. On a recommencé nos vacances. On est parti cet été en Italie, et on a beaucoup, beaucoup parlé, et on s'est dit qu'aujourd'hui, voilà, ça fait 9 ans qu'on s'est rencontrés, 9 ans qu'on est amoureux l'un de l'autre, et qu'aujourd'hui, ben, je suis prête pour moi à ne plus avoir d'enfant, pour nous à ne pas avoir d'enfant, mais je ne le fais plus pour lui. Et ça, c'est un grand pas, et il voit que je suis très sincère, et cette fois, il me croit. Donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé la donne. Être avec lui, ça me suffit complètement. Je me dis que j'ai pas forcément envie qu'on vive ensemble, pas tout de suite en tout cas. Chacun chez soi, c'est certainement la clé du bonheur. En fait, on passe que des moments fabuleux ensemble. Je lave pas ses chaussettes et lui, il supporte pas mes humeurs, parfois du matin ou si ou ça. Enfin, en tout cas, pas tous les matins. C'est plutôt chouette. Voilà, ça fait 6 mois qu'on ne s'est pas disputé. Ça, c'est très 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 rare. Ça n'est jamais arrivé en fait parce qu'on a plus de pression. Je lui mets plus de pression. Lui ne s'en met plus non plus parce qu'aujourd'hui, les 2 ans de séparation ont été extrêmement bénéfiques. Parfois, on se dit, oh là là, mais on est passé par tellement d'épreuves. Et il me dit, en fait, on avait besoin de tout ça. Il fallait tout ça pour en arriver là. Et aujourd'hui, il me dit que voilà, je suis la femme de sa vie. qui m'aime d'une manière qu'il n'aurait jamais soupçonné. Il ne savait même pas ce que c'était que l'amour à ce point. Et que ben, aujourd'hui, l'un sans l'autre, ce n'est plus du tout une option. Et qu'on allait avoir certainement encore beaucoup, beaucoup de tempêtes à gérer, mais que cette fois-ci, on allait les gérer ensemble, main dans la main, et que voilà, il allait plus jamais partir, plus jamais m'abandonner, parce qu'il allait plus se poser de questions. Cette fois, il savait où il allait. Enfin, il sait où il va, il sait qu'aujourd'hui, il veut passer sa vie avec moi, et moi, ben, c'est pareil, et voilà. Donc, effectivement, avant, pendant toutes les années, pendant les 7 ans, il me disait toujours que, par rapport à sa religion, j'étais certainement une épreuve de Dieu, que Dieu m'avait mis sur son chemin comme une épreuve pour qu'il arrive à combattre ça, à combattre cet amour, voilà. Et aujourd'hui, il dit que, en fait, Dieu m'a mis sur son chemin parce que je suis un cadeau. Et c'est la plus belle chose qu'il peut me dire. Et je pense qu'il est complètement en accord avec lui, complètement en accord avec Dieu, avec son Dieu, en tout cas avec ses croyances. Et moi, je respecte énormément sa religion, je respecte complètement ses traditions. Et pourtant, c'est ma pire ennemie. Aujourd'hui, je l'accepte à 100% tel qu'il est, parce qu'il m'accepte tel que je suis. Et lui ne m'a jamais demandé de changer, ne m'a jamais demandé de me convertir, ne m'a jamais rien demandé. Le fait de témoigner aujourd'hui, ça va permettre peut-être à certaines personnes de se reconnaître. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire que la religion juive n'est finalement pas assez forte, que finalement l'amour est encore plus fort. Pas du tout. Ça a été vraiment très, très dur. Et c'est parce que notre amour était suffisamment fort qu'on en est arrivé là. Mais aujourd'hui, on n'a pas terminé de se battre. Il est en accord avec lui-même. Maintenant, il va falloir qu'il soit en accord avec les autres. Et ça, ça va être très dur. Moi, ça me permet aujourd'hui, quelque part, de parler dans ce podcast pour faire en sorte que cette histoire existe. Du coup, elle restera gravée pour toujours. On m'a souvent dit qu'il fallait que j'écrive un bouquin, donc je n'écrirai peut-être pas de bouquin, mais en tout cas, voilà, là, c'est enregistré, c'est dans la boîte, et ça me permet à moi d'exorciser et de faire exister cette histoire qui est absolument magnifique, quoique terrible. Aujourd'hui, je sais au plus profond de moi qu'on ne se séparera plus, qu'on restera voilà, toujours ensemble, toujours main dans la main. Il y a quelque chose de très dur qui va arriver pour lui, c'est le fait de devoir officialiser les choses, parce qu'il tient à le faire pour moi, pour nous, pour que les choses soient plus simples, et parce qu'il me le doit quelque part. Mais comme je lui dis souvent, pour toi, le plus dur arrive là maintenant. Mais pour moi, le plus dur arrive dans une vingtaine d'années, parce que là, on a encore 20 ans à vivre fabuleux, et j'espère qu'on aura la chance de les vivre, vraiment, je l'espère de tout mon cœur. Mais après, bien, il a 20 ans de plus que moi, donc je sais qu'à un moment donné, il sera plus âgé, plus fatigué, et que ce sera certainement moins fun, certainement moins de voyages, moins de folie. Mais en tout cas, je l'aime suffisamment pour m'engager totalement à rester auprès de lui, quoi qu'il arrive, et à m'occuper de lui jusqu'au bout. Voilà, pour remplir d'amour chacune des journées qu'on passera encore ensemble. Et j'espère qu'il y en aura beaucoup, 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 beaucoup.
Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode, à Isabelle Field qui l'a monté et à Alexandre Ferreira qui l'a mis en musique. Si vous l'avez aimé, surtout n'oubliez pas, mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci beaucoup.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.